La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à vous tous ici, dans ce lieu ce matin, pour rendre gloire à Dieu. Et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez par le biais d'Internet et qui êtes avec nous, même avec la distance qui nous sépare géographiquement, vous êtes en communion avec cette assemblée ce matin. Bienvenue à Victoire et à toute sa famille et ses amis qui sont là ce matin pour ce pas qu'elle a choisi de passer avec nous et d'entrer dans cette communauté protestante. Alors ici, aujourd'hui, à l'Oratoire du Louvre, mais peut-être dans l'avenir sera-t-elle dans d'autres communautés protestantes en France ou de par le monde. Mais en tout cas, c'est ici qu'elle a choisi de rejoindre cette confession chrétienne et nous sommes très heureux de pouvoir partager avec elle ce moment si important, ce moment inaugural en quelque sorte. Nous allons prier ensemble ce matin dans ce temps de carême et vous venez d'entendre l'introïte, le kyrie de Forêt que le chœur nous a fait partager. Merci beaucoup au chœur d'être avec nous ce matin, avec Aurélien à la console, il est là avec à l'orgue. Et puis Aurélien est aussi le chef de chœur, nous avons deux Auréliens ce matin avec nous et nous les saluons et nous les remercions d'être avec nous pour accompagner ce temps de culte. Nous allons donc prier ensemble, quelle que soit votre confession, vos convictions, votre foi, peut-être même votre athéisme, votre agnosticisme, vous êtes ici chez vous avec nous, vous êtes accueillis là où vous en êtes dans votre chemin, parce que c'est le Seigneur qui donne la foi, nous le savons, nous le croyons et nous respectons les convictions de chacun ici. C'est très important toujours de le rappeler, ce ne sont pas des maisons fermées que les temples protestants, mais ce sont des maisons ouvertes sur le monde, avec tous les chemins de foi, tous les chemins de doute, toutes les recherches que les uns et les autres nous faisons dans notre vie. Et à certaines étapes, il est heureux de trouver des portes ouvertes où l'on peut entendre une parole et qui sait peut-être changer, être transformé, être converti, pourquoi pas. Je vous invite à la louange et ce matin nous cheminerons avec le psaume 22, psaume extrêmement important pour le carême et pour ce temps où nous nous préparons à revivre ensemble les textes de la Passion et cette année ce sera avec l'évangile de Matthieu. C'est avec donc ce psaume 22 que nous allons cheminer ensemble, mais je vous invite en premier lieu à nous réunir dans le chant avec le premier répond qui se trouve au tout début de vos psautiers français. Vous avez une liturgie entière avec des réponds qui sont la réponse, la prière chantée de l'assemblée en réponse à la prière parlée de la personne qui préside le culte. Et donc je vous invite à vous lever pour chanter ensemble ce premier répond. Louons Dieu avec le psaume 22. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te louerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez Dieu. Vous, toute la descendance de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous, toute la descendance d'Israël, car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du malheureux, et il ne lui cache pas sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée à cause de mes louanges, j'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les humbles mangeront et se rassasiront. Ils loueront l'Éternel, ceux qui le cherchent. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre se rendront vers l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. Car le règne est à l'Éternel, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui plieront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité lui rendra un culte. On parlera du Seigneur à la génération future. On viendra annoncer sa justice au peuple qui naîtra, car l'Éternel a agi. Chantons notre louange à l'Éternel avec le psaume 92, les strophes 1, 2, 3 et 4. Voilà, je vous invite à vous asseoir. Le Seigneur nous redit sa volonté. Dans le prophète Jérémie, il est écrit : Moi, le Seigneur, je vous déclare, si vous me recherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Que cette parole nous encourage à continuer sans cesse à chercher l'Éternel dans nos vies. Je vous invite à chanter. nous nous remettons devant le Seigneur avec ces autres versets du psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mes paroles plaintives sont loin de me procurer le salut. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je ne garde pas le silence. Pourtant tu es le saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient. Ils criaient à toi et ils échappaient. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas dans la honte. Et moi, je suis un ver et non un homme, le déshonneur des humains et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent les lèvres, hochent la tête. Remets ton sort à l'Éternel. L'Éternel le libérera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as tiré du ventre maternel, tu m'as confié aux soins de ma mère. Sur toi j'ai été jetée dès les entrailles maternelles, dès le ventre de ma mère tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche. Je vous invite à vous lever pour accueillir la grâce du Seigneur. Car dans le psaume 22, le verset dit « Tu m'as répondu ». Et oui, le Seigneur répond. Et le psalmiste de continuer avec le psaume 23. « Éternel, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages, tu me diriges près des eaux paisibles. » Tu restaures mon âme, tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton sont mon réconfort. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Et je vous invite à vous asseoir et je vais maintenant accueillir Victoire. Tu peux me rejoindre maintenant, Victoire, avec peut-être as-tu des parrains, marraines, qui veulent venir, un parrain qui veut venir avec toi, voilà. Venez, venez. Alors, vous étiez le parrain au jour de son baptême ? Non ? Alors, c'est ça l'avantage, quand on fait ce genre de choses, on peut avoir un autre parrain encore. Donc, vous voyez, on est très entouré, c'est très bien. Alors, Victoire, d'abord, je voudrais saluer les personnes du groupe de jeunes qui sont là. Je vous invite à vous lever, les jeunes qui sont du groupe de jeunes. Voilà. Alors, ne soyez pas timides comme ça, levez-vous, allez-y. Et si vous n'êtes pas encore venu à une séance du groupe de jeunes, mais que vous comptez y aller, levez-vous aussi. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez, toutes ces personnes sont là pour accueillir tous les jeunes qui se tournent vers notre communauté, qui viennent rejoindre l'Oratoire du Louvre, qui cherchent un lieu parfois pour exprimer leur foi, pour en discuter avec d'autres, pour débattre avec d'autres. Et ce groupe est donc un lieu ressource extrêmement important ici pour tous ceux qui veulent le partager. Je dis ça pour ceux qui nous regardent ce matin, peut-être du fond de leur lit, parce que se lever pour le culte, c'est un petit peu difficile. Là, le groupe de jeunes, c'est à 19h le mercredi soir, vous serez réveillés. Et donc, c'est possible de venir partager des débats intéressants sur notre foi, sur notre société, avec Agnès Adeline Schaeffer, qui est à la tribune ce matin, et qui est donc accompagnatrice de ce groupe régulièrement. Et donc nous sommes très très heureux d'avoir ce lieu ressource ici à l'Oratoire du Louvre. Merci à vous parce que vous avez aussi contribué, n'est-ce pas Victoire, à tout ce cheminement pour beaucoup ici et particulièrement pour Victoire. Alors je te laisse la parole maintenant. Merci
Béatrice. Bonjour à tous et à toutes. Il y a plus d'un an, alors que je regardais une série sur mon ordinateur, j'ai été bouleversée et touchée par la conviction qu'il fallait que je relise la Bible. Je ne me l'explique toujours pas et je ne cherche pas non plus à le faire. Mais c'est comme si depuis, je pouvais enfin m'avouer, reconnaître ce que j'ai toujours su, toujours ressenti, la confiance que l'Éternel nous garde, nous guide. Pour mon premier culte protestant, quelques jours après cette épiphanie, la pasteur de l'église du musée de Bruxelles a prêché sur le premier signe de Jésus dans l'évangile de Jean, quand Jésus transforme l'eau en vin aux noces de Cana. Elle avait intitulé sa prédication « Il n'y a pas de dry January, de mois sans alcool » pour Jésus. Comment était-ce possible de parler de ce qui nous touche dans nos vies, dans l'actualité de nos sociétés à travers la Bible ? À nouveau, j'ai été bouleversée par ce qu'il m'a été donné à entendre, à penser, et j'ai su que j'étais là où je devais être, au bon endroit, au bon moment. Et ce sentiment ne m'a depuis jamais quittée. En rentrant à Paris pour reprendre mes études, guidée par cette même confiance, j'ai pris place au sein de l'Oratoire du Louvre. Chaque prédication, chaque rencontre dans le groupe de jeunes, chaque verre de l'amitié, chaque entretien pastoral, chaque moment passé ici confirme le fait que j'ai trouvé dans le protestantisme, et plus précisément dans le protestantisme libéral de l'Oratoire, ma famille spirituelle. Et c'est avec une grande joie et une immense reconnaissance que devant vous ce matin, je confesse ma foi. L'Éternel est ce « il » qui est aussi « tu ». Que nous cherchons à l'extérieur, au-delà des cimes, le très haut, de très loin, mais aussi au plus intime que l'intime de nous-mêmes, le très proche. Éternel, tu es dans notre vie comme une conjonction de coordination. Tu articules qui nous sommes, avec nous-mêmes et avec les autres. Devant le monde déchiré par la guerre, par la haine, par la peur, tu nous offres un lien indestructible, celui de notre humanité commune, que Jésus-Christ a partagé avec nous, dans sa chair, dans ses enseignements, dans sa foi. Inspiré par l'inspiration qu'a eue Jésus, tu nous encourages à choisir la voie juste, celle de l'amour du prochain. Dans nos relations, nos aspirations et nos actions, tu nous invites à cultiver le sens du bien commun, et donc à devenir plus responsable, en participant à la dynamique de création du bon, en conscience, en confiance. Éternel, puissions-nous être réunis dans la joie de ta grâce, car nous n'attendons rien pour nous-mêmes, nous sommes déjà exaucés. Amen.
Merci Victoire et bienvenue dans le protestantisme au sens large, mais tu y étais déjà bien implantée et Victoire est déjà très active dans notre paroisse puisqu'elle est déjà bénévole de cette paroisse et nous aide beaucoup dans divers lieux. Donc je te remercie aussi pour cet engagement qui nous réjouit toujours. Et puis, sois la bienvenue aussi dans cette culture particulière qu'est le libéralisme théologique où tu vas continuer à non seulement entendre et apprendre des choses, mais aussi toi-même, tu apporteras ta pierre à l'édifice, on en est certain. Merci, merci beaucoup. Je vous invite à chanter ensemble. Alors, on va chanter le cantique, je crois que c'est le 204 à cet endroit-là, voilà. Donc, Seigneur, dirige et sanctifie. Donc, c'est dans les petits livres bleus, les louanges et prières. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Écoutons la lecture que nous avons choisie ce matin et plus particulièrement par rapport à ce qui avait été annoncé, un passage des versets qui ont été annoncés dans le chapitre 19 de l'évangile de Jean, les versets 23 et 24. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, d'en haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais désignons par le sort celui à qui elle appartiendra. » C'était pour que soit accomplie l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma robe. Voilà ce que firent les soldats. Je vous invite à chanter ensemble le psaume 23, les strophes 1, 2 et 3. Vous voyez qu'il fallait rester debout. Thank you. Nous prions ensemble. Le dernier des hommes, le plus abandonné, le plus seul, au désert ou dans le tourbillon des foules, Éternel, tu l'écoutes. Quand bien même l'oubli l'aurait séparé de quiconque, et fût-il dans la foule devenu méconnaissable, néanmoins tu le discernes, tu ne l'as pas oublié. Tu te rappelles son nom, tu sais où il est caché, s'il est au désert ou perdu de vue dans la foule. Et serait-il au fond des ténèbres de l'angoisse, avec d'horribles pensées, abandonné des hommes et presque de la langue que parlent ses semblables, tu ne l'as pas oublié. Tu comprends son langage, tu sais vite trouver le chemin pour le rejoindre, aussi vite que le son ou que l'éclair de la lumière. Et si tu traînes, ce n'est pas lenteur, mais sagesse. Et si tu traînes, ce n'est pas lenteur, mais seulement parce que tu connais la vitesse de ton secours. Et si tu traînes, ce n'est pas mesquine lésinerie, mais parcimonie paternelle, qui garde le meilleur pour l'enfant dans le plus sûr des lieux, pour l'instant le plus opportun. Seigneur Dieu, vers toi crie l'homme au jour de détresse, il te rend grâce au jour de joie. Søren Kierkegaard. Amen. Pour un jour de fête comme celui de l'accueil dans notre communauté d'une nouvelle sœur, c'est paradoxalement un récit tout adapté à une période de carême que nous avons choisi, celui de la Passion de Jésus. Mais la gravité du sujet ne mène pas forcément à la tristesse du lecteur. Et nous allons voir comment la description de la mort de Jésus nous entraîne inexorablement vers la vie. L'évangéliste Jean est le seul à mentionner explicitement que la tunique que portait Jésus le jour de sa crucifixion était sans couture, tissée d'une seule pièce. Cela pourrait paraître anecdotique. Pourtant, en préparant ce moment particulier de la confession de foi de Victoire et de son entrée manifeste dans le protestantisme, ce verset a attiré notre attention. Peut-être d'abord par goût esthétique, puisque nous partageons le même intérêt pour les textiles et particulièrement pour les tissages. Mais à bien y regarder, ce tissage qui ne s'interrompt pas est comme le fil continu d'une histoire qui s'écrit de siècle en siècle pour dire la même foi, qui entoure la vie d'un homme appelé Jésus et qui est considéré comme le Christ par de nombreuses générations, dans une chaîne de confession de foi continue et qui semble ne pas devoir s'arrêter. Mais avant de parler de la signification de cette tunique, peut-être faut-il se demander si elle a jamais pu exister. En effet, des historiens du monde antique ont soutenu que dans le monde romain, les crucifiés allaient nus vers leur fin infamante. Jésus n'aurait donc pas porté de tunique pour se rendre au lieu de sa mort. Mais il faut aussi prendre en compte que le Sanhédrin, le conseil juif qui siégeait à l'époque de Jésus à Jérusalem, ne tolérait pas la nudité en public, pas même celle des suppliciés, et que les Romains ne provoquaient pas les autorités de leur colonie pour ne pas risquer d'émeutes. Sans doute Jésus n'était-il pas nu, donc, pour son supplice, mais y avait-il un aménagement qui permettait aux suppliciés de Palestine de pouvoir se rendre au lieu du crâne pour être crucifiés, habillés et leur nudité cachée. Reste à savoir si le fait d'être tissé d'une seule pièce est réaliste. Bien qu'elle soit chargée d'un nombre important de symboles, cette tunique n'en est pas moins tout à fait réaliste. En effet, des archéologues ont retrouvé dans une sépulture une tunique antique qui n'était pas celle que portait Jésus le jour de sa crucifixion, bien sûr, puisqu'elle datait de bien après, mais elle montre comment on arrivait à façonner par le tissage des tuniques sans couture. Dans cet exemple de tunique sans couture retrouvé à Autun, en France, l'or et le lin sont tissés ensemble. Signe d'une maîtrise très avancée de l'art du tissage et qui vise à obtenir un tissu capable d'adopter les mouvements du corps de la façon la plus souple qui soit. Par ailleurs, sur les métiers à tisser antiques, les barres de bois qui portent les fils de trame s'appellent l'ensouple du ciel et l'ensouple de la terre. Signe que cette activité n'est pas seulement technique, mais qu'elle est aussi symbolique de l'organisation du monde et de la souplesse de notre vie. Même si l'on ne vénère pas l'autre tunique d'une seule pièce attribuée au Christ et rapportée de Constantinople au 8e siècle et conservée à l'abbaye bénédictine d'Argenteuil, on peut quand même estimer qu'il y eut une tunique qu'on ôta à Jésus quand il fut crucifié et qu'elle était ainsi tissée. Et cette tunique prend chez Jean la valeur d'un manifeste symbolique. Nous allons voir comment. Avant tout, il faut peut-être reconnaître dans le travail du tissage le travail de création, comme un langage qui s'écrirait de ligne en ligne. Dans certaines traditions du Moyen-Orient, quand on coupe le fil pour libérer le tissu achevé sur le métier, on prononce la même bénédiction que lorsque l'on coupe le cordon ombilical d'un nouveau-né. Signe de la création d'un nouvel être, d'un nouveau monde. Il faut aussi rappeler que les tissus ainsi tissés lentement ne sont pas jetables comme nos vêtements d'aujourd'hui et qu'ils accompagnaient parfois toute une vie. Ainsi en prenait-on soin. Symbole de temps et de destin, comme dans l'Odyssée où Pénélope allonge le temps qui lui est donné pour rester l'épouse d'Ulysse, le tissage dit quelque chose de l'accomplissement de nos vies. L'évangile de Jean le dit d'ailleurs très bien quand il parle de ce partage des vêtements de Jésus au pied de la croix. C'était pour que soit accomplie l'écriture, dit-il. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma robe. Et c'est par cette description du droit qu'avaient les bourreaux de récupérer les vêtements des suppliciés que nous retrouvons l'évocation du psaume 22. Le psaume que nous avons médité tout au long de la liturgie de ce culte et dans lequel il est écrit « Ils ont percé mes mains et mes pieds, je compte tous mes os. Eux, ils observent, ils arrêtent leur regard sur moi, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Délivre mon âme de l'épée, ma vie du pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. » Ce psaume n'est pas une prophétie, car souvent ce sont les prophéties qui sont à accomplir, mais la plainte d'un roi qui est entouré d'ennemis. Pourquoi l'écriture de la plainte devrait-elle ici s'accomplir?
Et de quoi cette tunique tissée d'une seule pièce pourrait être le symbole? Le christianisme y a vu, dans cette tunique tissée d'une seule pièce et que personne ne déchire, le signe de l'unité profonde de l'Église du Christ à travers les âges. Reprenant à contrario le geste prophétique du manteau déchiré par Aïa pour annoncer le schisme qui divisera le royaume de Salomon dans le premier livre des rois. L'image de ces soldats qui décident de ne pas déchirer la tunique sans couture est apparue au Père de l'Église comme celle d'une préservation de l'Église disciple de Jésus. À cause de l'aspect précieux du vêtement tissé avec une grande maîtrise et de cet épisode du livre des rois, cette lecture fait de Jésus le roi d'un royaume de croyants, ce qui correspond assez bien avec l'écriteau placé par Pilate sur sa croix et avec l'ironie de l'évangile de Jean sur le schisme qui divise les partisans de Jésus et les Juifs qui avaient refusé sa vocation messianique. Les historiens de la Bible y ont vu aussi la fonction de grand prêtre à cause de la mention que l'historien de l'Antiquité juive Flavius Joseph fait de la tunique du grand prêtre, qui était, elle aussi, sans couture et de lin fin. Mais si l'on prend au sérieux positivement cette mention de l'évangéliste Jean d'une tunique sans couture, une autre lecture est possible. En effet, la tunique dont il est question ici est celle qu'un homme portait comme vêtement de dessous, c'est-à-dire la tunique la plus fine, la plus confortable pour le corps, parce que la plus proche de la peau, le vêtement le plus intime donc. Ce vêtement, les Romains l'appelaient la tunica intima. L'image de cette tunique sans couture, tissée comme un tube de tissu, a inspiré une autre discipline que la théologie, la médecine. Et je n'apprendrai rien aux médecins ici présents qui connaissent la tunica intima, qui est la couche interne des vaisseaux sanguins et qui empêche la coagulation du sang et permet ainsi la vie. Cette tunique intime qu'on ne déchire pas et qu'on tire au sort prend tout à coup une nouvelle signification. Elle a donc quelque chose à voir avec le sang et donc la vie de Jésus, ce qu'il y a de plus personnel, ce que Jésus a de plus proche du corps, de plus intime. Quand on se souvient que selon l'ancien rite israélite raconté dans le Lévitique, on tirait au sort le bouc émissaire qu'on allait envoyer au diable, c'est-à-dire à Azazel, et donc à la mort, errant dans le désert, chargé des fautes du peuple par le grand prêtre du temple, on comprend que la vie de Jésus est alors comparée à cette tunique, à celle qu'on tire au sort pour porter le poids des fautes de tous. Les sorts ne sont pas tout à fait étrangers au rite religieux de l'Israël ancien, et les premiers chrétiens eux-mêmes s'en servaient pour désigner les hommes appelés à remplir certaines fonctions, comme par exemple Matthias qui remplacera Judas au début des Actes des Apôtres. Les sorts apparaissaient alors dans ces pratiques comme l'expression de la main de Dieu, de sa volonté. Le fait que la tunique soit tirée au sort, c'est la vie même de Jésus qui est ainsi tirée au sort pour porter pour tous les autres. Un des soldats qui se trouvait au pied de la croix ce jour-là, un des bourreaux de Jésus, est donc reparti avec la tunica intima de Jésus, parce qu'il l'avait gagnée au sort. Jean insiste en disant que ce sont les soldats qui ont fait cela, comme si le sort les avait liés à la mort de Jésus et au salut qu'il apporte sans même le savoir. Comme si l'ironie du sort faisait qu'un soldat romain reparte avec le plus intime de la vie de Jésus quand ses coreligionnaires eux-mêmes l'accusaient de blasphème et que le schisme était consommé avec eux. Une fois de plus, l'évangile de Jean règle son contentieux avec les frères juifs qui ne se laissent pas convaincre par la messianité de Jésus, et c'est un romain, un païen, qui partira comme bénéficiaire de l'habit précieux que le sort lui octroie. Par ce fin tissage de lin, par ce fil courant dans toute une étoffe d'une façon parfaite, sans reprise ni rupture, l'Écriture nous parle de la foi d'un homme et de ce qu'il a apporté au monde, entre l'ensouple de la terre et l'ensouple du ciel, dans le tissage de toute sa vie. Il est question ici de son monde intime, aussi intime que la tunica intima, aussi intime que ce qui coule dans ses veines. Il est question de sa foi, de sa relation tissée avec Dieu jour après jour. La foi qui fait vivre, qui éveille la conscience et incite et initie les actions les plus audacieuses. Il est question du règne selon lequel il a vécu et qui n'était pas le règne des rois de ce monde. Il est question ici peut-être aussi de son ministère de prêtre, faisant la volonté de Dieu et révélant sa grâce à ceux qui n'en voulaient pas, comme à ceux qui avaient soif de salut. Par un tout petit verset qui dit « Sa tunique qui était sans couture d'un seul tissu d'en haut jusqu'en bas », l'évangile de Jean nous plonge dans la vie et l'héritage d'un homme dont les relations qu'il a tissées durant sa vie sont toutes liées à cette façon d'être, d'en haut jusqu'en bas, du ciel jusqu'à la terre, d'une seule étoffe, dans la cohérence parfaite de sa foi, quand bien même sa vie aurait été morcelée, déchirée, blessée. De quelle étoffe est faite notre tunica intima ? Où sont les coutures qui nous gênent aux entournures ? Où sont les fils qui dépassent et trahissent nos déchirures ? Dieu seul le sait. Mais comme Victoire aujourd'hui, comme toutes celles et ceux qui regardent Jésus le crucifié dans sa peur, dans sa fragilité, dans son humanité la plus fragile, criant « Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et qui se souviennent que c'est au nom de sa foi et de la justice qu'elle lui inspirait, qu'il a été supplicié. Comme toutes celles et ceux qui reconnaissent en eux les fils que tisse la foi, nous pouvons revêtir cette tunique sans couture que nous montre l'évangile de Jean. Ce vêtement intime, aussi intime que la foi, et paradoxalement, pour un vêtement qui se met d'habitude à l'extérieur du corps, cette tunique intérieure qui protège le flux de notre vie spirituelle de tout ce qui pourrait la heurter, l'empêcher, l'interrompre, la mettre à mal. Ce tissage qui assure la cohérence de nos vies intérieures et extérieures, qui fait que nos actes sont liés à la conscience que nous y mettons, à la foi que nous y plaçons. Ce tissage qui assure la cohérence de nos vies, cette tunica intima est notre cohérence intime, celle qui résiste quand l'extérieur décourage, conteste et fragilise les choix essentiels que la foi nous fait porter. Elle est confiance. Elle est cette confiance, cette espérance qui nous fait croire là où tous se découragent, qui nous fait espérer là où tous ont quitté la partie, qui nous fait aimer là où nous tous nous ont condamnés. Elle est cette intimité qui nous fait ressusciter là où tous ne voient que la mort. Chaque jour, comme au jour de notre baptême, il nous faut revêtir notre tunica intima, tissée d'une seule étoffe, du haut jusqu'en bas. Amen. Merci pour ce très beau morceau d'Éric Satie. Je vous invite à chanter ensemble « Ô Dieu des grâces éternelles », le cantique 297, les strophes 1, 2 et 3 dans les louanges et prières. Voilà, merci beaucoup. Je vous invite à vous asseoir et nous allons partager quelques annonces ensemble. Et c'est notre présidente du Conseil presbytéral, Aurore, qui va partager avec nous ces annonces. Et je signale d'ailleurs que le psaume 22 est écrit sur l'air de la biche de l'Aurore. Eh oui.
J'en perds le micro. Merci Béatrice. Et je rappelle que les prédications de Béatrice, vous en avez en version imprimée à la sortie, parce qu'il faut toujours les relire, on les relit toute la semaine.
Mais je suis désolée de ne pas toujours être très claire.
Non, t'es très claire, mais il faut enlever toutes les coutures, donc il faut les relire, il faut quand même beaucoup les relire. Non, en tout cas, grand merci pour ta prédication. La version papier est là, vous la retrouvez également sur Internet, sur le site, ou tous les vendredis sur notre lettre de nouvelles. C'est une grande joie de t'accueillir, Victoire. On a des cadeaux pour toi, je ne sais pas quand tu les donneras.
Oh bon, on peut les donner maintenant. Il y en a un que je vais expliquer. D'ailleurs, Aurore, si tu veux le donner, c'est tout à fait possible. C'est le livre qui est là et qui s'appelle « Dans l'infini, dans un roseau ». Il se trouve que Victoire s'appelle Calamarides. Je n'ai pas écorché votre nom. Voilà. Et évidemment, ça fait penser aux calamars et aux os de sèche, mais surtout à l'encre de sèche et l'encre qui a donné cette encre magnifique pour écrire toutes les belles choses. Et comme cette autrice qui écrit cette magnifique thèse sur l'histoire des livres et l'histoire de la production des livres dans l'Antiquité a écrit beaucoup sur la grande bibliothèque d'Alexandrie, j'ai pensé que pour ta famille, pour tes origines venues de Smyrne, venue ensuite en Égypte, vous avez sans doute beaucoup, beaucoup à retrouver de toutes ces origines mêlées qui font la richesse des familles et qui font aussi la richesse de l'héritage que nous pouvons avoir dans nos cultures respectives. Et voilà, je voulais particulièrement marquer ce point en t'offrant au nom de notre Église ce magnifique livre que j'ai lu avec beaucoup, beaucoup d'attention et beaucoup de plaisir. Voilà.
Donc c'est l'infini dans un roseau d'Irène Valéjo et il est en vente à la librairie.
À la librairie. Mais oui, parce que vous allez tous avoir envie de le lire, je suis sûre.
Alors il n'en reste plus qu'un à la librairie. Également, un porte-clé de l'oratoire du Louvre.
Ça, c'est pour pas oublier de revenir avec ta clé.
Qui ne sont pas en vente, mais qui sont pour nos généreux donateurs ou acheteurs de la librairie. Donc, vous connaissez pas Victoire, mais Victoire donc, nous aide depuis un an, a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour. Et nous avons fait des choses très, très ennuyeuses ensemble. Nous avons notamment mis à jour tous les fichiers de donateurs qui permettent notamment d'envoyer la feuille rose que vous trouverez gratuitement là. Mais en primeur, on aime l'envoyer aux donateurs par courrier. Donc on a vraiment travaillé pendant des heures sur ces sujets-là. Parce que nous avons beaucoup, beaucoup de donateurs et notamment nouveaux donateurs. Mais les facteurs en début d'année, je sais pas, étaient un peu distraits. C'était l'histoire du timbre vert et du timbre rouge. Et alors tout ce travail nous a poussé à avoir énormément d'humilité parce que vous savez que la Poste de temps en temps renvoie en mettant NPAI. L'adresse n'existe pas à l'adresse indiquée. On a, comme chaque fois, reçu plein, mais là on s'attendait à pas en recevoir parce qu'on avait tout bien mis à jour. Mais on en a reçu plein, dont un NPAI pour Victoire elle-même.
Qui n'habitait pas à sa propre adresse.
Voilà, qui n'habitait pas à sa propre adresse. Donc, si vous n'avez pas reçu la feuille rose, vraiment sachez que Victoire y a mis tout son cœur et qu'elle-même ne l'a pas reçue. Et pourtant, l'adresse était la bonne. Voilà pour la petite histoire. Tout à l'heure, donc, restez avec Victoire, restez également avec le cœur. Nous prenons un verre, dit de l'amitié, dans la grande sacristie. Donc, Béatrice se placera derrière. Et Agnès, qui est dans la tribune, Agnès, es-tu là? Voilà. Agnès également sera avec vous, avec, j'espère, beaucoup de choristes également. Vous savez que le cœur cherche toujours du monde. Je voudrais également attirer votre attention. Samedi prochain et dimanche prochain, nous passons le week-end avec la Fraternité des Veilleurs. Les Veilleurs ont été créés en 1923, donc il y a 100 ans, par Wilfred Monod, dont vous trouverez également des ouvrages à la librairie. Notamment un ouvrage de Laurent Gagnebin expliquant Wilfred Monod qui s'appelle L'Évangile intégral. Nous passons le week-end avec la Fraternité des Veilleurs. Ça commence samedi prochain à 9h30 ici même. Je vois les jeunes ouvrir les yeux. 9h30 samedi matin ici même par un office, l'office classique de la prière du matin des Veilleurs. Également, si vous n'êtes pas du matin, après, il y a un verre de l'amitié quand même, un brunch, oui. Un verre de l'amitié. À 14h45, une conférence de Frédéric Rognon. Frédéric Rognon, philosophe, théologien, extrêmement connu, notamment pour ceux qui connaissent bien Jacques Ellul, c'est vraiment le spécialiste de Jacques Ellul. Frédéric Rognon viendra faire une conférence à 14h45 ici même sur le thème de la « Quelle spiritualité monastique dans notre siècle aujourd'hui ?» Donc venez vraiment à cette conférence. Également après un récital d'orgue par David Cassan ici même, je crois à 17h20, c'est très précis chez les Veilleurs, à 17h20 récital d'orgue. Et le lendemain, nous installerons avec Béatrice, avec Agnès Adeline Schaeffer également qui assurera la prédication, le nouveau prieur et non pas veilleur, j'avais fait l'erreur la semaine dernière, le nouveau prieur. Voilà, donc le week-end prochain, soyez avec nous. Également cette semaine, cours de grec, cours d'hébreu et pause spirituelle le jeudi midi. Je vous remercie. Nous lançons l'offrande. Donc...
Oui, et moi je propose qu'on lance une tyrolienne entre Agnès là-bas et moi ici.
On va faire ça pour
Noël.
On le fera.
Ça donne des idées.
Donc merci à vous. Nous avons juste encore une annonce. Il y a des routières dehors mais c'est ma liaison avec l'offrande, qui vendent des gâteaux pour leur route 2024. Elles sont loin, vous ne voulez pas venir ?
Si, venez.
Elles ont quand même un petit bout d'uniforme, plus beaucoup, hein, quand on est routier.
Oui, là.
Il y a un foulard. Voilà. Vous voulez dire pourquoi vous vendez des gâteaux ?
Bonjour, donc on est un groupe de 6 scouts de l'oratoire et aujourd'hui on vend des gâteaux pour financer notre route, donc c'est un voyage humanitaire. Notre projet il n'est pas fixe, mais pour l'instant il s'agirait de partir au Bénin, soit restaurer une école, soit planter des arbres pour reculer l'avancée du désert. Et du coup on vend des gâteaux, du salé, du sucré. Le prix est libre et comme il pleut, on s'est mis sous le porche de la grande porte, donc pour pas que vous nous loupiez. Et aussi, juste dernière chose, si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas à nous donner, à venir nous demander notre contact pour des babysitting, des déménagements, des travaux, n'importe quoi. Voilà,
les filles sont prêtes à travailler, donc n'hésitez pas à les embaucher.
Et alors, vous êtes prêtes à rester assez longtemps parce qu'on prend un verre là d'abord, hein. Donc d'ailleurs, venez prendre un verre, vous, et puis après, on vous achète un gâteau. Donc gardez de la monnaie pour les scouts et les routières. Et puis les billets et la carte bleue pour l'offrande. Le don est joyeux. Merci à tous. Bon week-end.
Je vous invite à la prière. Je vous invite à la prière. Éternel, nous te remettons toute la vie de Victoire, avec toutes ses rencontres et tous ceux qui l'ont accompagnée dans sa foi jusqu'ici et qui continuent à l'accompagner, et tout ce qu'elle découvrira. Nous te remettons tous ceux qui cherchent un langage, une parole qui puisse entrer en cohérence avec ce qu'ils vivent. Nous te remettons tous ceux qui se tournent vers toi et qui crient « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Permets que nous soyons des communautés assez accueillantes, assez fraternelles, assez aimantes, pour pouvoir accueillir toutes ces recherches et tous ces cris, et que nous soyons là pour accomplir cette parole d'accueil inconditionnel que nous retrouvons dans la Bible. Fais de nous, Seigneur, des tisserands et des tisserandes, capables sans cesse de créer des liens entre nous, capables sans cesse de pouvoir reprendre le fil des vies des uns et des autres sans rupture. Que les uns et les autres nous soyons accueillis dans ta parole avec nos vies tout entières, avec ce qui fait mal et ce qui est bénédiction, pour que nous trouvions en nous-mêmes cette cohérence que tu nous promets, cette unité, cette simplicité de vie. Heureux les simples, disent les béatitudes. Que nous soyons de ces éléments simples qui n'ont pas de détour, de duplicité, que nous puissions être entièrement devant toi. Éternel, nous te remettons tous ceux qui en ce moment même peinent à voir un avenir et qui crient vers toi. Nous pensons à tous ceux qui sont en guerre actuellement, tous ceux qui pleurent un proche tombé sous les bombes, tous ceux qui s'engouffrent dans la catastrophe d'une nature qui tout à coup se dérègle et se rebelle comme si elle voulait écraser les hommes, tous ceux qui peinent à voir l'avenir dans une crise économique terrible comme au Liban. Nous te demandons, Seigneur, que dans les soubresauts de nos histoires humaines, ta parole reste le lien solide qui fait que nous sommes enracinés entre ciel et terre et qu'aucun de nous ne se décourage pour que nous puissions continuer à construire l'avenir. Nous te remettons notre pays et nous te demandons la paix pour notre pays sans cesse et la possibilité de construire l'avenir dans le dialogue, dans l'écoute mutuelle et dans le respect. Permets, Seigneur, que nous soyons sans cesse appelés à ton service avec cette joie immense de pouvoir être dans ta parole et de trouver signification à ce qui nous arrive dans nos vies. Ensemble, nous te demandons, comme des enfants qui regardent un parent et qui lui demandent son amour éternel, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ce temps de halte est le temps où vous avez pu remettre vos vies sous le regard de Dieu, prendre le temps de lui parler, de le bénir et de vous laisser bénir. Ce temps, maintenant, vous allez le partager à l'extérieur de ce temple. Vous irez porter la bonne nouvelle là où vous irez. Vous irez porter cet amour infini que Dieu vous donne et qui vous a été rappelé aujourd'hui, ce matin, dans ce lieu. Le Seigneur nous bénit et nous garde en tout lieu et dans tout ce que nous faisons. Il est là près de nous. Amen. Alors, je vais juste demander une pause à l'organisme, pardon Aurélien, parce qu'il y a une autre petite annonce avant de terminer.
Oui, on me signale à juste titre, à propos d'amour et de fraternité, nous avons la joie d'avoir le concert de l'Armée du Salut cet après-midi même à 16h.
Ah oui, 16h, l'Armée du Salut sera là pour son concert, venez les soutenir.
Voilà, merci beaucoup.
Merci.